Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, nous parlons Défi Innovation Québec avec Karim Azouz-Réguil, conseiller des marchés publics. Donc, Karim va nous expliquer le programme de Défi Innovation Québec, un programme incitant les entreprises à innover pour répondre à des besoins spécifiques provenant des organismes du marché public. Donc, c'est un programme intéressant. J'invite les entrepreneurs ainsi que les personnes intéressées à lancer des défis à bien l'écouter. Bonne écoute!
Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com/entreprise. Bonne écoute!
Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Karim Azouz-Réguil. Comment ça va, Karim?
Très bien, merci. Et vous-même?
Ça va super bien. Tu es conseiller en marché public. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que ça fait un conseiller en marché public?
Le conseiller en marché public dans ma direction, donc la direction des partenariats et du développement local au ministère de l'Économie et de l'Énergie, donc avec le MEIE. Ben, disons que ma fonction première, c'est de faciliter l'accès au marché public pour les entreprises du Québec, en fait. Donc, c'est par différentes mesures, différentes activités. On a la vocation, avec j'ai deux collègues qui travaillent aussi avec moi, de développer à la fois des outils ou des mesures, véritablement, pour favoriser cette accessibilité au marché public qui, malheureusement, paraît encore très difficile ou mystérieuse pour certaines entreprises. Donc, on travaille à corriger cette vision des marchés publics, en fait.
C'est une belle mission parce que les marchés publics peuvent donner beaucoup d'opportunités aux entreprises puis ça fait grandir le Québec aussi. Oui.
Non, je disais, c'est tout à fait l'idée, en fait, c'est de arriver à augmenter les retombées économiques pour les entreprises du Québec par rapport aux dépenses du gouvernement.
Tu es en charge, on travaille ensemble pour le projet Défi Innovation Québec. Est-ce que tu es en charge du programme pour le Québec en entier?
Oui, c'est une mesure effectivement qui vient de ma direction et ce plaisir d'encadrer, de développer cette mesure-là en fait. Donc rapidement, cette mesure-là est assez jeune finalement, puisque on débute une troisième année en fait. L'idée c'était de partir d'une problématique d'approvisionnement, je rentre directement dans l'objet de cette mesure, parce que c'est une mesure, le mot est important, parce que je sais qu'il y a le programme innovation, mais qui est sous la tutelle d'Investissement Québec, on est complètement dissocié de ce programme-là, on est vraiment une mesure. Donc, on n'est pas rattaché à un programme et on s'est opéré par le MEIE, en fait. Donc, l'idée, c'est de partir d'une problématique d'approvisionnement d'un organisme public. Je reviendrai un peu plus tard peut-être sur cette notion d'organisme public qui a un besoin pour réaliser sa mission, mais qui est peu ou pas du tout répondu par l'industrie, en fait. Donc, notre ambition, une fois qu'on a connaissance de cette problématique-là, c'est de nous appuyer sur des partenaires. Là encore une fois, je reviendrai sur cette notion de partenaire. Ce sont des pôles d'excellence, des créneaux d'excellence, la plupart. On a aussi tous nos partenaires sont des OBNL, pour assurer la logistique et la réalisation des défis innovation. En fait, c'est le nom de la mesure qu'on a mis en place au sein de ma direction pour justement partant de la problématique donc d'approvisionnement de l'organisme public, se retourner vers l'industrie en leur disant « est-ce que vous êtes en mesure de nous proposer une innovation, quelque chose de nouveau, véritablement, qui répondrait à ce besoin ?» Et il y a un comité d'évaluation, bien évidemment, qui est créé, qui détermine finalement après la pertinence et l'acceptabilité de la réponse des entreprises à ce défi. Et ma direction, finalement, où on a des fonds pour financer le développement de cette innovation Alors, bon, je rentrerai peut-être un peu plus tard dans le détail du financement de cette innovation, mais l'idée, c'est ça. On part d'une problématique d'un organisme public, on se retourne vers l'industrie en s'appuyant sur des partenaires qui vont assumer toute la logistique du défi, et les entreprises auront à charge de répondre, si elles l'acceptent, de répondre à ce défi, aux besoins donc de l'organisme public, par une solution innovante. Ça
Donc,
peut être.
ça entraîne les entreprises, ça amène les entreprises, c'est que le gouvernement veut que les entreprises innovent aussi avec cette
Tout à fait,
mesure-là.
oui. Oui, c'est l'ambition, c'est de rendre, faciliter la mission des organismes publics, mais surtout d'introduire des innovations au sein de l'administration gouvernementale, en fait, aussi, et donc d'inciter et d'encourager les entreprises québécoises à développer ces innovations.
Donc, c'est un programme qui est génial. Tu dis que ça fait 3 ans que c'est en place.
Et
D'où
on
est
rentre dans la
parti?
troisième année.
Donc, on rentre dans la 3e année. L'idée de créer ces défis d'innovation-là, est-ce que tu sais comment ça a germé au ministère? Comment c'est arrivé?
Ben, c'est parce que j'ai un long passé, on va dire, en approvisionnement, un peu plus de 15 ans en approvisionnement, donc en matière contractuelle dans la fonction publique québécoise. Et j'ai toujours eu un attrait sur justement l'innovation, je suis quelqu'un d'assez curieux. Et bon, en regardant ce qui se passait à l'étranger, que ce soit en Europe ou même au Canada, puisque le fédéral a aussi des choses qui sont mises en place autour de l'innovation. Bon, ça m'a servi d'élément de base pour effectivement arriver à formuler cette possibilité, offrir cette possibilité aux entreprises québécoises innovantes, donc d'accéder au marché public, puisque bon, c'est pas toujours évident ou facile pour une entreprise qui a des produits ou des services, on va dire, plus classiques, déjà commercialisés, pour arriver à vendre à un ministère ou un organisme public. Donc, pour les entreprises qui, elles, étaient ou sont en innovation dans le secteur de l'innovation, c'est un peu plus compliqué encore, puisque là, il faut à la fois pardon, rassurer les organismes publics par rapport justement à la possibilité d'intégrer de l'innovation, parce que l'innovation, il y a un facteur de risque qui est inévitablement plus grand, on va dire, que quand on fait l'achat d'un service éprouvé ou d'un bien qui est déjà sur le marché depuis longtemps. Donc, il y a un élément d'incertitude, un facteur de risque qui est un peu plus important. Donc, il faut aussi qu'on arrive à implanter cette culture de l'innovation dans les organismes publics. Et cette orientation-là, finalement, ça permettait de marier le meilleur des deux mondes.
Tout à fait. Donc là, on arrive, si on parle dans le concret. L'organisme public a un besoin. Comment est-ce que ça se définit? Il y a des appels à projets. Parle-moi un peu peut-être de la mécanique du défi innovation.
Très bien. Donc, ben, effectivement, donc on a ce que j'ai appelé plutôt des partenaires sur lesquels on s'appuie, en fait. Alors, on a des partenaires qui sont sectoriels, donc c'est-à-dire qu'ils ont une activité par rapport à un secteur économique ou industriel on va dire socio-économique. Ils ont ce secteur-là dans lequel ils opèrent. On en a un ou deux qui sont plus généralistes, et on s'appuie donc sur leur connaissance à la fois des entreprises et du monde, on va dire, des organismes publics. C'est quand même plus souvent des municipalités. Donc, on pourra peut-être revenir sur la raison du fait que c'est plus souvent des municipalités qui portent les projets aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que ces partenaires ont une bonne connaissance à la fois donc de leur milieu entrepreneurial et également. Ils sont en relation de façon régulière avec des organismes publics. Donc, enfin, moi, au sein du MEIE, j'essaye d'être un agent facilitateur, pardon, un agent facilitateur, pour justement développer les relations, ouvrir des portes peut-être auprès d'organismes publics, rendre public, parce que c'est vrai que comme c'est une mesure récente, on a peut-être un défaut d'image, en fait. On n'a pas une très grande notoriété, on n'est pas extrêmement connu, on travaille là-dessus, ça s'améliore, mais il faut être conscient de ça. Donc, on essaye d'aider nos organismes partenaires à ouvrir les portes auprès des organismes publics, trouver des problématiques pour après voir effectivement la possibilité pour ces partenaires de traduire ça en défi. Alors, tout part du besoin de l'organisme public. Donc, c'est pour ça que là, en amont, il y a un travail effectivement de collaboration entre donc, le MEIE, l'organisme public et puis ce que j'appelle nos partenaires pour arriver à travailler sur l'expression du besoin qui lancera le défi, en fait.
Donc, le défi devient public.
Oui.
Donc, par la suite, les entreprises peuvent présenter leur candidature pour répondre aux besoins.
C'est ça. Donc, cet organisme partenaire a pour mission donc de composer un comité de sélection qui va évaluer, un comité d'évaluation, pardon, qui va sélectionner finalement les meilleures réponses des entreprises aux défis qui seront lancés par chacun des organismes publics. Donc, il faut savoir qu'un partenaire peut lancer plusieurs défis avec différents organismes publics, en fait. On a une enveloppe budgétaire je vais parler de CQI, on a donc une enveloppe budgétaire il y a $1,750,000 qui seront à ventiler ou à distribuer en termes de subventions des réponses aux appels à projets par les entreprises.
Là, nous sommes dans la partie intéressante pour les entrepreneurs. Il y a une aide financière, une subvention pour les aider à développer leur innovation qui répondra aux besoins de l'organisme public. Donc, comment ça fonctionne? L'entreprise a un appui financier sur quelles dépenses?
Alors, en termes de dépenses admissibles, finalement, on est assez ouvert. Il faut que ce soit effectivement des dépenses qui aient un lien direct avec l'innovation. Donc, ça peut être de l'achat de services auprès d'autres entreprises, ça peut être de l'achat d'équipements, ça peut être la rémunération d'un employé. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise justifie de la dépense et explique comment et pourquoi c'est un besoin lié à la réalisation du défi. Donc, à partir de là, est-ce que je peux... Donc, c'est des dépenses tant sur le plan financier qu'en nature qui sont acceptables. Mais effectivement, donc, il faut qu'elles soient motivées et justifiées dans la réalisation du projet, en fait. Et ça va être le rôle du comité d'évaluation dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui devra statuer sur la pertinence ou non des dépenses qui seront présentées par l'entreprise. Alors effectivement, comme je le mentionnais, en fait, c'est des dépenses admissibles. Ça peut être donc des honoraires professionnels, des services de sous-traitance, le coût de la main-d'œuvre directe, du matériel, de l'équipement, des frais de déplacement, de la location d'équipement aussi. Dans certains cas, il y a eu ce type de dépenses. Peut-être aussi s'il y avait un besoin d'études ou d'obtention de protection de la propriété intellectuelle aussi. Si l'entreprise a des coûts liés à la protection de sa propriété intellectuelle, ça peut, encore une fois, entrer en considération dans les dépenses admissibles. Il faut savoir que c'est vraiment le comité d'évaluation qui est souverain, hein, puisqu'il est composé d'experts indépendants, qui statuera sur l'acceptabilité ou le rejet des dépenses qui seront présentées dans le cadre du défi par l'entreprise.
Donc, nous avons un plafond. C'est un montant maximum de subvention qu'une entreprise peut recevoir.
Oui.
Donc, ce plafond-là, c'est 500 000 $, c'est bien ça par entreprise.
Voilà. Donc, c'est vraiment le montant maximal de fonds qui peut provenir du MEIE. Maintenant, on accepte dans le financement de défi qui est un montant maximal de fonds publics de 75%. Donc, si l'entreprise, dans son montage financier, trouve une subvention auprès d'un autre organisme public que le MEIE à hauteur de 25%, donc elle peut donc obtenir un financement de son innovation de 75%, ce qui est quand même assez intéressant. Mais c'est la limite vraiment de fonds publics, d'origine de fonds publics.
Fantastique. Donc, l'entreprise doit contribuer, il doit avoir un apport privé
voilà. Au
niveau de 25%. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce point-là? Ou de 50%, indépendamment.
Au minimum, l'entreprise aura donc une contribution de 25%. Au maximum, si elle n'a pas d'autres fonds publics, à ce moment-là, ça sera 50%. Ça, effectivement, c'est ce qu'on estime être nécessaire finalement pour s'assurer de l'implication de l'entreprise dans la réalisation du défi. Ce qu'on veut, c'est financer une innovation et on veut qu'elle soit opérationnelle à la fin du processus. Encore une fois, ce niveau d'opération, on veut, les défis n'ont pas vocation à financer une innovation jusqu'à la commercialisation. On s'arrête au stade de la pré-commercialisation, ce qui veut dire que la solution qui est attendue à la fin du défi, c'est une solution fonctionnelle, certes, qui répond aux besoins exprimés par l'organisme public. Il se peut qu'il y ait, en cours de réalisation du défi, ça va dépendre des discussions avec l'organisme public, le comité d'évaluation, l'entreprise, on révise l'ambition du niveau de réalisation de l'innovation à partir du moment où ça répond quand même à la satisfaction du besoin de l'organisme public. On s'attend effectivement à ce qu'on ait en innovation, on peut avoir des surprises en cours de
Tout à
route.
fait.
Donc on est ouvert à ça, on en est conscient. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à la pré-commercialisation, à l'étape de la pré-commercialisation. Donc ça ne veut pas dire que la solution doit être finale et qu'elle soit prête à être vendue le lendemain au grand public. Il se peut que cette étape-là, l'étape vers la commercialisation, nécessite des ajustements, que ce soit du cosmétique, que ce soit de développement de nouvelles fonctions. Mais on ne s'attend pas donc à ce qu'il y ait une solution qui soit produite à la fin du défi et qui soit destinée à la vente dès le lendemain de la fin du défi. Donc il faut savoir que les entreprises, il y a une marge entre l'étape de la pré-commercialisation et la commercialisation.
Pour être plus précise, là, je reviens sur la part des entreprises. Ça va des questions que probablement les entrepreneurs vont avoir. Leur contribution, j'imagine que c'est beaucoup du temps des employés. Ils attribuent une équipe au projet.
Oui.
Qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant comme contribution des entreprises dans le projet?
Et effectivement, il y a eu beaucoup d'apports en nature, effectivement. Peut-être, c'est probablement, bon, je n'ai pas les chiffres exacts parce que là, les rapports d'étape et puis de fin de réalisation sont en cours de réalisation par nos partenaires. Mais dans les grandes tendances, on sent quand même qu'il y a, en termes de financement, les dépenses qui ont été présentées et acceptées, ça a été beaucoup effectivement lié au personnel, à de l'équipement quand même aussi pour justement ces nouveaux employés. Donc c'est beaucoup d'apports en nature qui sont présentés comme dépenses admissibles.
Et
L'aspect
puis,
financier, bon, c'est plus. Il y avait plusieurs entreprises qui avaient cette possibilité-là, mais la concrétisation de cet apport financier d'autres sources, ce n'est pas toujours réalisé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut le prendre en considération. Quand elles déposent leur réponse au défi, il est clair qu'elles identifient les sources potentielles, mais on est aussi et on accepte que tout ne soit pas finalisé au moment du dépôt de leur demande de subvention. Et à ce moment-là, bon, il se peut qu'en cours de route, ce qui était espéré ne rentre pas, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'à ce moment-là, elle pallie au manque financier qui n'est pas rentré par effectivement cette souplesse qu'on a par rapport à de l'apport en nature, parce que le montant de leur contribution restera à assumer quand même.
Tout à fait. Puis
Donc,
là, on parlait des fois, c'est sûr que dans un projet d'innovation, il y a de l'incertitude. Puis là, je me mets dans la peau d'un organisme public. Quelle est l'implication de l'organisme public dans le processus?
Sa première implication, c'est l'expression du besoin. Ça, clairement. Donc, ce point-là, il est travaillé très en amont, hein, comme je le disais, avec les experts qui sont présents sur le comité d'évaluation, comité qui est donc composé et monté par notre organisme partenaire, donc là, en l'occurrence CQI. Et en relation donc avec ces experts-là et l'entreprise, il y a une période où l'entreprise prend connaissance de la problématique essaye effectivement de voir comment ce sur quoi elle travaille pourrait répondre le plus précisément possible finalement aux besoins exprimés. Il y a une période où effectivement ces échanges-là ont pour vocation finalement à permettre à l'entreprise de mieux prendre possession du besoin, mieux s'accaparer et améliorer sa compréhension du besoin, et à l'organisme public de reformuler certains éléments en fait. Peut-être qu'ils vont se rendre compte dans ces rencontres préparatoires qu'il y a des choses qu'ils aimeraient pour l'organisme public, mais qui ne sont pas forcément atteignables ou qui peuvent représentent un niveau de difficulté. Donc, il y a cette période finalement d'ajustement, plus que négociation, d'ajustement entre le besoin et puis la capacité de l'entreprise à développer une solution, parce qu'il faut tenir compte des délais de réalisation. Il est clair que pas non plus un calendrier qui est extensible à l'infini. Il faut que il y a un certain nombre de mois dans lesquels l'innovation doit se réaliser. Donc ça, c'est déjà une contrainte importante. Il y a après l'aspect financier aussi. Faut qu'en finalement permettre à ces étapes-là ont pour but de permettre à l'entreprise de planifier un développement et les différentes étapes de réalisation de son innovation en fonction donc des attentes du ministère et puis des contraintes temporelles et financières, ce qui fait que ça lui permette d'ajuster plus finement son besoin d'aide financière aussi.
Je comprends. Et puis, est-ce que l'organisme public doit débourser ou être impliqué financièrement avant la fin du projet?
Pour l'organisme public, disons que l'organisme public, lui, il est impliqué avant la fin du projet, puisqu'il nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on demande à l'organisme public, c'est de procéder en fait par une mise en contexte réel de l'innovation. Donc ça, c'est une des obligations qu'on attend des organismes publics, c'est de permettre à l'entreprise d'installer ou de mettre en condition réelle son innovation. D'une, parce que ça va permettre de l'améliorer, d'affiner des éléments de réglage, de fonctionnalité. Ça permet aussi à l'organisme public de commencer à s'approprier de la solution qui va être développée pour l'affiner, pour que ça corresponde le mieux possible, finalement, toujours à son besoin, en fait. Donc là, pour l'organisme public, il y a forcément de la mise à disposition de ressources, que ce soit de personnel, que ce soit de locaux, ça peut être aussi de l'électricité, ça peut prendre différentes formes. Encore une fois, l'organisme public a lui aussi finalement une contribution, que ce soit en nature ou financièrement. Il peut aussi apporter, il peut rentrer sur le plan financier dans le 25% additionnel. Ça appartient donc à l'organisme public et ça peut être établi justement dans ces rencontres préparatoires. L'organisme public ayant discuté avec l'entreprise, il a quand même plus d'informations pour dire, bon, je peux finalement contribuer à telle hauteur avant que l'entreprise dépose officiellement sa réponse au défi. Ça permet à l'un et à l'autre d'affiner pour l'organisme public son besoin, ses exigences, ses attentes, et pour l'entreprise de, sachant ça, le contexte, les besoins plus précis, elle aussi plus précise dans son évaluation du coût total du projet, en fait, de l'innovation.
J'aimerais ça avoir un exemple, Karim.
Des exemples. Alors, il y en a quelques-uns aujourd'hui, effectivement. On peut. Alors, attendez, là, je vais replonger dans mes notes. Effectivement, alors peut-être celui qui me vient le plus vite à l'esprit, comme ça, c'est un défi lancé par la CEPAC, en fait. Et ils ont un site qui est très isolé, une auberge qui est dans un site très isolé. Et ils ont besoin finalement d'une source d'énergie qui soit la plus propre possible, la plus respectueuse de l'environnement. Pardon. Et donc l'idée finalement, c'est à la fois de répondre à ce besoin énergétique de production d'énergie, tout en limitant le plus possible les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un défi qui est quand même assez conséquent parce que le développement de la solution a demandé des travaux, des infrastructures assez importantes pour aménager des silos, parce que l'idée c'était de produire cette énergie à partir de biomasse ou Des copeaux, oui, à partir de copeaux, de choses comme ça, mais pas de copeaux de bois. Là, vraiment, c'est vraiment au partir de la biomasse, mais peut-être sous forme de copeaux ou de. Non, j'ai vraiment pas le terme là. Bon, ça me reviendra plus tard. Mais bon, donc l'idée, c'était ça, c'est de partir d'une solution d'entreposage de la biomasse et de permettre donc une production d'énergie durant l'hiver, notamment parce que cet endroit est complètement coupé du monde, on va dire, en hiver. C'est les monts Chic-Choc, oui, c'est ça. Ce sont... Donc, ça, c'est un des défis. La difficulté pour l'entreprise, c'est que le site n'est pas accessible toute l'année. Donc là, dans le calendrier, ben, effectivement, eux ont eu un calendrier assez serré parce qu'il fallait qu'ils implantent beaucoup d'éléments pendant la belle saison pour pouvoir être opérationnels, commencer les tests avec les équipements requis dès l'automne ou la fin de l'automne en tout cas. Et puis, bon, selon les conditions météorologiques, ils ont eu de la neige assez tôt. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent, des impondérables, mais qui agrémentent la réalisation des défis. Donc, ça s'en est un.
Ça, c'est un bon exemple. Puis là, je suis curieuse. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que
Oui,
le...
oui, oui. Ça a été, oui, non, de ce côté-là, la CEPAC était très, très séduite par la solution et c'est très encourageant. Je pense que je ne parlerai pas de l'achat de la solution. Ça sera un autre volet, peut-être, un autre. Podcast, mais disons qu'ils sont satisfaits effectivement par la solution, par la collaboration avec l'entreprise. En fait, je pense que ça, au niveau de la satisfaction, que ce soit du côté de l'entreprise ou de la CEPAC, je pense que c'est un défi qui est une réussite en soi, en fait. On a d'autres défis, la ville de Sainte-Julie, qui elle avait comme problématique de mieux connaître l'état de sa canopée. Donc c'est une ville qui a une partie de son domaine, enfin de son domaine, de son territoire, qui est forestier. Ils ont donc de nombreux arbres et ils ont même au niveau de la ville, ils ont des secteurs boisés assez importants, que ce soit sur des terrains appartenant à des particuliers ou des terrains municipaux. Et leur problématique, c'était de connaître l'état de santé de ces différents arbres, finalement, différentes espèces, pour éviter de la propagation de maladies comme on a pu connaître pour certaines variétés d'arbres au Québec. Donc, et puis, pour faciliter aussi l'opération sur le terrain de leurs agents, parce qu'il y a des secteurs qui étaient très difficiles d'accès, voire même inaccessibles, que ce soit à pied ou par des véhicules. Donc là, l'idée, ça a été de s'appuyer sur des drones avec des caméras très particulières, en fait, qui permettaient d'aller scanner, numériser donc les arbres en termes de hauteur, en termes de volume de feuillage. Donc il y a eu plusieurs captures de l'état de la forêt et des arbres du territoire de cette municipalité. Là encore, il a fallu s'adapter. Il y avait des attentes qui étaient plus importantes que ce qui sera livré, mais malgré tout, ce qui est livré répond déjà et beaucoup aux besoins de la ville. Maintenant, c'est vrai qu'on se fixe toujours des objectifs. On aimerait bien avoir une solution idéale. On part de cette solution idéale et puis après la réalisation, c'est on essaye de s'en rapprocher le plus possible, mais c'était clair dès le départ pour la municipalité qu'il y aurait probablement un écart et c'était accepté, c'était compris. Donc, ça aussi, je pense que c'est un défi
Qui a bien
qui a
fonctionné.
une belle réussite, en
Là,
fait.
il reste peu de temps. J'ai une question au niveau des critères d'admissibilité des entreprises pour le programme. Est-ce qu'il y a des
Oui.
critères bien définis? Est-ce qu'un start-up peut déposer sa candidature? Comment ça
Alors.
fonctionne?
On est très ouvert, encore une fois, hein. L'avantage de cette mesure-là, c'est qu'on n'est pas aussi fermé et pris que quand on fait un programme, parce que dans un programme, dans les jargons administratifs, on appelle ça un programme normé. Une fois qu'on a établi les règles, on ne peut pas y revenir, on ne peut pas revenir dessus. L'avantage, c'est que les règles qu'on fixe, on peut les faire évoluer selon les vagues de défis auxquelles on procède. Pour les entreprises, en fait, on demande à ce qu'elles soient. On veut financer des entreprises québécoises, donc minimalement, il faut qu'elles aient une place d'affaires au Québec. Donc, cette place d'affaires, on aimerait bien que ce ne soit pas autre chose qu'une boîte postale, mais on a eu un défi où, effectivement, l'entreprise mère était située en Ontario, elle a pris l'engagement au début, ou avant de déposer en fait sa demande de subvention, elle avait pris l'engagement de développer une structure au Québec. C'est ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait en cours de route. Hein. Au moment du dépôt de sa soumission, on avait sa lettre d'engagement, l'expression de sa volonté, mais ce n'était pas fait. Le comité a quand même évalué que la solution proposée était très intéressante, très pertinente, que l'engagement, ben, il faudrait le surveiller. Ça a été fait, l'engagement a été tenu. Donc là, il n'y a pas 50 employés au Québec aujourd'hui, mais il y a une adresse physique, il y a des locaux. Je ne sais pas si c'est... Minimalement, je sais qu'il y a une personne qui est là à temps plein. Est-ce qu'il y a un autre employé ? Ça, j'avoue que je n'ai pas le fin détail, mais la présence physique est là. Donc, on est quand même... Vous voyez qu'on accepte quand même, selon le cas. Après, c'est vrai que c'est toujours le comité hein, qui statue finalement, mais quand on nous questionne, on accepte ce genre de choses. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on veut, c'est des entreprises québécoises. Maintenant, on préfère effectivement que les défis soient relevés par des PME, parce qu'on considère que c'est ce qui représente le plus gros pourcentage d'entreprises au Québec. Bon, c'est une réalité qui concerne pas mal de pays, mais je crois qu'on est à plus de 90% dans le tissu d'entreprises du Québec, c'est plus de 90% des PME. Donc, il va de soi que c'est vers les PME qu'on s'oriente. On considère aussi que les entreprises de plus grande ampleur, sans parler de multinationales, n'ont peut-être pas besoin de ces financements pour développer des innovations, ou en tout cas moins besoin de financements publics pour développer leurs innovations. Donc, c'est à peu près les seules limites. Et je dirais que c'est plus vraiment sur la pertinence de la solution développée, en fait.
Je comprends.
L'enjeu est là. Il faut savoir que les défis, à la fin, peut-être que le questionnement des entreprises aussi sur mais qu'est-ce qui va me rester, moi, de mon innovation. Ce qu'on veut, ce qui reste dans l'organisme public, c'est la possibilité de conserver un droit d'usage. Les droits de propriété intellectuelle, de vente, de commercialisation restent la propriété de l'entreprise. Par contre, étant donné la hauteur de financement public, on s'attend à ce que la solution puisse être, comme je le disais, la notion de solution pré-commerciale est importante puisque la solution doit être fonctionnelle et on s'attend à ce qu'elle puisse rester au sein de l'organisme public pour qu'il puisse exercer ce droit d'usage. Bon, après, là dernièrement, on a eu des discussions particulières sur une solution qui demandait de l'investissement matériel important qui pouvait difficilement, pour l'entreprise, rester au sein de l'organisme public. Bon, ben ça, c'est à présenter dès le départ dans la réalisation. Après, le comité évalue effectivement avec, il consulte l'organisme public, savoir si l'organisme public accepte ou pas la possibilité qu'on retire partiellement la solution. Mais la finalité, nous, ce qu'on souhaite dans la majorité des cas, c'est que ce droit d'usage perdure après la réalisation du défi, en fait. Donc, ce qui veut dire que ce droit d'usage-là ne permettra pas au ministère de vendre la solution, il ne pourra pas la céder à quelqu'un d'autre, mais par contre, il pourra jouer avec, s'en servir effectivement pour un temps indéfini, du moment que ça reste et que c'est limité à la réponse à son besoin premier, en fait.
Pour les personnes qui nous écoutent, comment pouvons-nous entrer en contact avec des porteurs de projets de défis innovation au Québec? Ou comment prendre l'information, comment savoir c'est quoi les défis actuels, j'ai une idée de projet, qui contacter?
Ben, aujourd'hui, je dirais que en priorité, me contacter, donc ne pas hésiter à diffuser mon adresse courriel, ça c'est clair, parce qu'après, il y a la possibilité, si l'entreprise est en relation avec un de nos partenaires, donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on s'oriente vers un neuvième partenaire, mais aujourd'hui, on a eu une première vague des défis qui se termine. Donc, ces deux partenaires-là n'auront plus d'enveloppe budgétaire à consacrer aux défis. Et puis, même s'ils avaient encore un reliquat, n'auront pas le temps suffisant pour lancer de nouveaux défis. Donc, on parle de Propulsion Québec et d'Écotech Québec, qui ont été nos deux premiers partenaires, en fait. Eux sont véritablement plus sur la fin du cycle. Mais on a débuté un second cycle, donc avec CQI, donc vous. On a aussi Alliance Métal, on a Techni Textile, on a Sage Innovation, on a, j'oublie encore du monde, puisqu'il y en avait cinq dans cette vague-là. Alors, Alliance Métal, Sage Innovation, Techni Textile, le centre d'expertise des drones également, et Carrefour Québec International. Donc là, on s'est adjoint IVEO aussi, comme autre pôle. Et prochainement, là, je pense qu'on d'ici janvier-février, on devrait avoir un volet plus économie sociale, donc un autre partenaire en économie sociale. Là, je ne peux pas le mentionner pour l'instant, parce que les demandes sont en cours. Donc, une fois que ce sera officiel, on devrait avoir un autre partenaire, mais plus orienté économie sociale. Donc, peut-être contacter directement si les entreprises sont déjà en relation avec un de nos partenaires qui a été énuméré, entrer en contact donc avec vous directement. Sinon, je suis la personne à contacter pour avoir plus de précisions et de détails sur les défis, le comment, pourquoi.
Bien, je te remercie, Karim, pour l'entretien. Puis je te remercie aussi pour ton idée innovante. C'est génial comme programme. Je te remercie aussi pour la confiance accordée à Carrefour Québec International là, dans le cadre de ce projet-là. Donc, bonne continuité au projet.
Merci à vous et puis c'est toujours très agréable de travailler avec vous.
Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au Balado des exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!